Eh bien, bonjour à vous tous et toutes. Nous allons donc commencer cette table ronde intitulée « Rêver aujourd'hui, point d'interrogation ». Voilà. Alors cette table, elle est préparée, menée conjointement par eh bien, le partenariat que nous avons avec le festival Idéclic, et Sylvie Martin-Lamani est là. Scène d'enfance à Citège France. En fait, on a été mis en relation par le Festival d'Avignon lui-même, puisque nous avions deux préoccupations. Celle du Festival Idéclic, qui était comment parler aujourd'hui, par quelle médiation on peut parler aux enfants et aux jeunes gens eh bien, de ce monde dans lequel nous sommes, et tout précisément des sujets difficiles, et de ce sujet qui est vraiment celui du festival, à savoir les chemins d'exil. Et puis, la préoccupation de scène d'enfance, le désir de se poser la question de rêver. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'adresser aux jeunes une parole artistique, une parole citoyenne? Quel type de parole? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore rêver? Est-ce que dans ce monde, eh bien, qui n'est pas un monde des plus faciles, eh bien, est-ce que nous allons avoir une parole qui peut leur être adressée? Pas que à eux, parce que je crois que ce qui est important, c'est ce questionnement commun que nous allons avoir là. Ça faisait suite ça fait partie de ce temps Avignon Enfants à l'honneur, donc que propose Scène d'enfance pour la cinquième année. Nous avions embarqué les enfants dans aussi ce sujet du rêve, qui était rêvons ensemble. On leur avait adressé, pour préparer leur venue, un questionnaire. On leur avait demandé de se situer aussi par rapport à leurs rêves, de répondre à un certain nombre de questions, de nous exprimer leurs rêves aujourd'hui, ce qui a conduit à un temps que vous avez peut-être vécu avec nous dans la cour d'honneur, qui était eh bien, l'Assemblée du Palais, menée par la Compagnie L'Artifice. Et dans cette Assemblée du Palais, donc, ils ont pu proclamer haut et fort quels étaient leurs rêves. Alors, est-ce que c'était les rêves comme... nous l'avons entendu dans L'amour vainqueur, par exemple, d'Olivier Py, qui disait « Je rêve d'un monde meilleur, je rêve d'atteindre la cause, de savoir le pourquoi des choses, de relever tous les défis, d'incarner la philosophie. » Est-ce que c'était des rêves très concrets? Est-ce que c'est des rêves qui leur paraissent être impossibles ou réalisables? Peut-être que on leur avait aussi envoyé une lettre que vous pouvez retrouver dans ce fascicule Avignon Enfants à l'honneur. Dans cette lettre, on leur disait que, de par le monde, des enfants, des jeunes, font éclater des sacs de rêves grandioses et des cauchemars noirs qui traversent les airs et les mers. Et nous leur disions aussi, vos rêves, nous, artistes et passeurs, nous les prenons au sérieux. Vos rêves réveillent les nôtres. C'est peut-être pour cela qu'un enfant jeune, vraiment jeune, dans la cour d'honneur, eh bien, a pu dire, je voudrais retrouver la phrase exacte, excusez-moi, voilà, suspense. Il a dit, et je crois que dans ce lieu emblématique, on en a tous été troublés, ne perdez pas espoir, nous prenons la relève. Voilà, waouh. Bon, alors... qui prend la relève? Eux. Mais nous sommes là aussi, nous, et c'est nous aujourd'hui, bien sûr, que nous interrogeons dans notre capacité d'artiste, de passeur, de questionner ce monde dans lequel nous sommes à travers eh bien, nos paroles artistiques, mais aussi nos paroles citoyennes. Alors, peut-être que la première question, et après, c'est plutôt Sylvie qui va les poser. Mais voilà, oui, ce que je veux dire, c'est qu'on a une table qui a été un peu difficile à construire pour les emplois du temps bien chargés des uns et des autres. Que Joris Mathieu, qui est tout à fait au bout de la table, comme ça il peut partir beaucoup plus facilement, eh bien, va très vite partir, alors ce qui fait aussi que j'écourte un petit peu l'introduction, mais qu'il va être succédé, par Yacouba Konaté, qui va arriver, lui, en retard, parce qu'il est dans une autre table ronde. Voilà. Donc, heureusement, nous, femmes, nous sommes constantes, nous sommes là. Et donc, pourtant, on est sollicité, il ne faut pas le croire. Hein, voilà, ce n'est pas parce qu'on nous ignore et qu'on se rassemble entre nous. Non, mais nous sommes là. Voilà. Et donc, eh bien, je vais poser tout de suite la première question à Joris, sans perdre de temps. Joris, tu as pris parti, tu as, je crois, été à l'origine d'une lettre, un peu sous forme de pétition, sous forme de... Tu as appelé à des signatures. Et tu disais que, le monde de la culture, comment le monde de la culture accompagnait la jeunesse, et notamment par rapport, au climat. Là, tu étais, il me semble, très orienté par rapport à des positions qui avaient été prises par des jeunes. La question que je te pose, c'est plus précisément comment toi, qui es... Alors, on ne s'est pas présenté, Sylvie, est-ce que tu penses, parce que c'est toi qui vas mener, présenter chacun se présentera. Donc, on va aller... Voilà. Donc, comme là, pour l'instant, c'est Joris Mathieu. Voilà. Donc, Joris, tu es directeur, metteur en scène du au TNG à Lyon, hein, et c'est un peu cette double, je veux dire, mission, hein, que tu as, que j'interroge. Comment et pourquoi, à un moment donné, tu as eu cette parole citoyenne, et comment avec ça se fait pour toi, cette parole citoyenne, cette parole d'artiste engagé? Voilà.
Merci, Geneviève. Bon, tout d'abord, je m'excuse, hein, effectivement, je partirai rapidement du fait d'un engagement sur une rencontre dans laquelle on présente des projets artistiques naissants d'un dispositif d'accompagnement en recherche, en écriture et en développement. Et malheureusement, je ne pourrai pas rester tout le long de la rencontre. Cette question, elle est complexe parce qu'en réalité, je pense qu'il faut poser d'abord un tableau d'ensemble qui est le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on travaille et là, en tant que directeur d'un théâtre, la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de l'enfance et de la jeunesse, c'est comment ça nous interroge en fait intimement à un endroit où, disons-le franchement, et je pense que ne pas être le seul à être traversé par cette idée, nous vivons de grands paradoxes personnels, des grandes tensions et des grands décalages entre ce que l'on peut penser, les discours que l'on peut tenir et les actes. Voilà, donc j'aimerais déjà poser cette situation comme point de départ à l'enjeu pour moi de me saisir de la parole d'un mouvement qui est donc le Youth for Climate, qui est un mouvement international et qui s'est inscrit avec une grande maturité dans une grande lucidité dans cette idée que pour mener un combat pour essayer de transformer notre manière de vivre et nos usages du monde, il allait falloir s'inscrire dans la durée, avec régularité et avec pugnacité. Tout le projet en fait, artistique du lieu du Centre dramatique à Lyon est construit autour de trois axes assez fondateurs. Le premier étant les spectacles qui nous permettent d'observer le réel tel qu'il est, c'est-à-dire peut-être des réalités qu'on préfère fuir ou qu'on préfère ne pas regarder, mais auxquels il faut se confronter collectivement, de manière intergénérationnelle, qu'on s'adresse à des publics individuels adultes, des publics d'enfants ou à des publics familiaux. Le deuxième axe présente plutôt des propositions qui nous confrontent à des mondes possibles, donc des formes d'anticipation des mondes dans lesquels nous pourrions vivre. Et il n'y a pas de pouvoir d'anticipation ni de projection sans observation du réel. Et le troisième axe qui est un peu naissant, c'est d'accompagner de plus en plus de projets qui posent la question de la place de l'enfance dans le processus créatif, qu'il soit acteur en scène, participant de l'écriture, avec cette importance pour nous de faire entendre aussi des paroles de la jeunesse, en essayant de ne pas tomber dans l'angélisme, la démagogie ou la complaisance, mais en essayant d'être dans un vrai dialogue d'égal à égal entre artistes et enfants, adolescents. Quand en France a commencé à apparaître un peu plus fortement la parole du mouvement Youth for Climate, à titre personnel, je me suis senti percuté par cette parole et surtout, peut-être comme d'autres parmi vous, comme je le disais tout à l'heure, renvoyé à ma situation d'adulte, étant en responsabilité, conscient et lucide sur l'état du monde, mais finalement ne trouvant pas les ressources pour interrompre une machine qu'on sait dysfonctionnante et que l'on doit pourtant savoir suspendre et arrêter pour penser autrement. Il m'a semblé qu'il était important que nous, acteurs culturels, qu'on soit directrice, directeur d'institution ou artiste, avions d'une certaine manière le devoir de faire entendre à cette jeunesse, non pas qu'on allait les accompagner, mais qu'on allait se laisser regarder par eux, déplacer par eux, et savoir les entendre. Et là aussi, sans complaisance et sans démagogie, c'est-à-dire là où ils nous renvoient à notre irresponsabilité. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire effectivement un texte, avec un appel à co-signature, parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, tout engagement doit s'inscrire dans quelque chose de collectif, parce que l'addition des paroles individuelles, finalement, ne fabrique pas des actes. Il y avait un enjeu assez fort pour moi, mais disons-le clairement, c'est-à-dire que ce que peut interroger le Youth for Climate, cette inquiétude de la jeunesse, n'est pas que une manière de considérer que nous avons failli, c'est une volonté de se poser des questions qui nous renvoient à des enjeux qui sont aussi ceux du service public, et en particulier celui du service public de la politique de soutien à la création et à la culture, qui est comment on essaye de penser un monde dans lequel on arrive à renouer avec à la fois une justice environnementale, mais aussi avec une justice sociale. Il y a un double enjeu politique qui n'est pas que la question environnementale, qui est comment on reforme une communauté ensemble et comment on se met très rapidement au travail pour faire le tri des mauvaises conduites, des mauvais usages, des mauvaises pratiques. Et on a beaucoup de choses à interroger dans notre métier là-dessus, on le sait, on voit la précarisation s'accentuer, on voit dans notre secteur... je ne veux pas appeler ça de l'hyperproduction, mais j'aime bien donner une image assez simple qui sont des courbes de graphique qu'on utilise beaucoup pour parler des questions environnementales, justement, à savoir une courbe qui montre la démographie qui augmente et une courbe qui montre les ressources qui diminuent et une conclusion qui est relativement logique et qui peut sembler inéluctable si on n'agit pas et si on n'intervient pas, qui est ce qu'on va appeler la collapsologie, c'est-à-dire la chute. Et c'est aussi ce qu'on vit d'une certaine manière, je pense, toutes et tous dans notre secteur, c'est-à-dire une augmentation de notre population active, et on peut s'en réjouir parce que c'est un signe de vitalité, de créativité, une multiplicité d'œuvres qui sortent, une situation dans laquelle il n'y a jamais eu autant de générations actives simultanément et qui produisent des œuvres qui méritent d'exister, qui ont une valeur. Et en face, une diminution des ressources qui n'arrête pas de s'effondrer. Voilà. Donc, les parallèles, moi, je le situe ici. Et donc, quand est-ce qu'on décide de repenser notre système autrement, au regard de cette chose-là, qu'on ose l'affronter réellement et que collectivement, plutôt que d'être pris dans nos urgences quotidiennes et des logiques de survie, on arrive à prendre du recul et se dire comment on agit maintenant et qu'est-ce qu'on fait. En responsabilité, chacun, là où on se trouve. Comment, dans nos métiers, on commence aussi à penser différemment la question du développement durable, de ce qu'on investit dans nos spectacles et de finalement ce que ça peut produire comme déchets, des questions que moi je me pose aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance de tourner nos spectacles à l'international. Quelle est notre empreinte carbone et quel sens à tout ça, si ce n'est l'immense plaisir de confronter et en même temps un spectre que je ne veux pas voir arriver, qui serait celui du protectionnisme, qui nous imposerait en fait finalement de rester chez nous, là où on est, ne s'adressant qu'à ceux qui sont autour de nous, sans n'avoir plus d'échange de points de vue, sans n'avoir plus d'échange de vision culturelle, etc., etc. Donc voilà comment est née pour moi cette nécessité de me saisir en fait plutôt de ce qui était impulsé par un mouvement d'une jeunesse pour essayer de nous interroger, nous, individuellement, à l'échelle de notre lieu et de nos pratiques, d'essayer d'impulser un mouvement plus collectif, puisque quand je discutais avec un grand nombre de collègues, je vois bien que c'est des problématiques qui nous saisissent tous, mais qu'individuellement, il est très difficile de modifier, de s'extraire d'une machine qui est malade. Et donc, on est en train de travailler maintenant pour être dans quelque chose de très concret, et avec une grande difficulté qui est aussi un malaise de l'air du temps, c'est-à-dire que la parole qui est émise ne ressemble pas à un projet de communication fabriquant une image de marque sur laquelle on spéculerait pour se positionner dans ce qui est devenu notre secteur, et il faut le dire aussi, quelque chose qui ressemble à un ultralibéralisme forcené et qui nous conduit droit au mur. Dans ce texte, d'ailleurs, je m'amuse à introduire cette parole par la reconstitution d'un dialogue faisant se croiser le discours de Greta Thunberg devant les représentants internationaux à l'ONU et les vœux de notre président de la République, Emmanuel Macron. Discours de vœux du président dans lequel, je ne sais pas si vous avez eu le courage de l'écouter et de le lire jusqu'au bout, mais il nous dit que ça va être approximatif, mais que le modèle ultralibéral touche à sa fin, compromis par trop d'intérêts particuliers et individuels. Donc quand le président d'un pays comme le nôtre fait ce constat, qui me semble relativement lucide, mais ne propose pas d'alternative autre que de ralentir la chute ou le moment où on va se retrouver dans le mur, je pense qu'il est de notre responsabilité d'avoir, nous, la société civile, une prise de parole et une mise en acte de certaines choses, parce que si le président le dit, c'est que c'est vrai. Et pour aller un tout petit peu plus loin, donc dans cette réflexion, après ce premier texte, qui était finalement un désir de voir se manifester des gens qui pourraient partager ce point de vue, on est en train de travailler à un acte plus concret. Nous, dans le lieu, c'est des petites choses, hein, mais on va commencer petitement. Moi, je pense qu'on représente une force importante, le mouvement de la jeunesse et le monde de la culture, pour avoir la prétention de faire entendre une voix qui pourrait amener à se poser des questions fortes. Donc on va, nous, organiser au mois de janvier, on est en train de caler la date, on travaille depuis maintenant 6 mois en échange avec les jeunes du Youth for Climate à Lyon, sur l'arrêt de l'activité d'une journée dans notre lieu, pour commencer, où toutes les équipes seront libérées, où on invitera d'autres artistes et où ces jeunes passeront la journée avec nous, une journée qu'on co-éditorialise, c'est-à-dire qu'on essaye de concevoir ensemble l'enjeu de cette journée. Pour l'instant, ce qui apparaît, c'est plutôt un désir de justement travailler cette rencontre, qu'ils portent un regard sur nos pratiques, qu'on leur parle de nos métiers, qu'ils nous regardent, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, que nous, on les regarde aussi, qu'on réfléchisse ensemble à quels pourraient être des scénarios alternatifs qui ne nous condamneraient pas à nous résoudre au fait que la seule chose qu'on pourrait désormais faire pour être décroissant dans nos métiers, dans nos pratiques, soit de jouer en lumière du jour à l'extérieur en disant des textes et rien d'autre, puisque de mon point de vue, en tout cas, je considère qu'on a aussi une histoire qui nous a fait apprendre à fabriquer des langages. Et je n'aime pas l'idée de la réduction des langages, mais je sais aussi qu'on ne pourra pas continuer comme on est en train de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à préserver ? De quoi doit-on absolument se débarrasser ? Ça sera un peu l'enjeu pour nous de cette journée de rencontre. Et évidemment, on va inviter l'ensemble des lieux qui ont co-signé ce texte à, pourquoi pas, envisager à leur échelle, à leur manière, eux aussi, une rencontre, d'essayer de voir ce qui peut émerger. Et voilà. Et c'est vrai que je considère que c'est de notre responsabilité, en fait, d'entendre cette parole qui a été émise, de se laisser déplacer et d'oser commencer à suspendre un peu notre activité, arrêter certaines choses et prendre le temps de penser. Pour l'instant, sans avoir la prétention qu'on va réussir à inventer des solutions, mais au moins arrêter de foncer dans le mur. Et comme la table ronde est organisée autour de cette idée de à quoi rêvons-nous, peut-être juste cette image pour finir, une image que j'aime bien, qui est une image qui est marquante dans un livre sur lequel je vais travailler bientôt, qui est le Loup des Steppes de Hermann Hesse, qui est une invitation quand même à une introspection individuelle, intime, mais aussi à un questionnement sur le collectif et la place de l'individu à l'intérieur du groupe. Et il y a une image que je trouve assez forte et assez symboliquement marquante. Ce personnage qui a décidé de vivre en marge du monde dans lequel il ne se reconnaît plus, un soir d'errance dans les rues, se retrouvant dans une ruelle qu'il a l'habitude de fréquenter chaque jour, et dans laquelle il y a un mur borgne, ce soir-là, voit une porte, là où il n'y en a jamais eu avant, dans le mur, et une enseigne néon qui se reflète dans une flaque d'eau sur laquelle il arrive à déchiffrer « Théâtre magique, seul pour les fous, tout le monde n'entre pas ». Et c'est peut-être comme ça que moi j'aurais envie d'introduire cette idée du rêve, c'est-à-dire travailler notre capacité individuelle et collective à voir des portes là où il n'y en a pas, à créer des perspectives là où on pense qu'on va dans le mur, et aussi bien par les œuvres qu'on fabrique que par les actes que l'on essaye de mettre en œuvre dans notre travail. Voilà.
Ça marche, oui. Merci beaucoup, Joris. Maintenant, je vais passer, sans grande transition, la parole à Dominique Paquet, qui est juste à ma droite, qui est philosophe et autrice pour le jeune public, qui enseigne à l'université, qui organise des cafés philo pour adultes et des choco-philo, ça s'appelle comme ça, goûter, pour enfants. Goûter. Et voilà, pour faire une sorte d'introduction à ce sujet qu'on va essayer de traverser avec nos invités aujourd'hui, je lui ai demandé de bien vouloir revenir sur la notion des écritures du réel, les écritures du réel, et d'essayer de définir cette chose-là, ce réel dont on parle en vérité quand on aborde cette notion, et sachant qu'ensuite, et Annabelle Sergent et Magali Mougel nous parleront aussi de leur projet d'écriture du réel, et Yacouba quand il nous rejoindra. Et on sait déjà qu'il y a quelque chose de grave derrière cet intitulé, mais voilà, nous allons l'entendre.
Merci. Bien après l'intervention politique de Joris, Nous allons donc nous questionner sur les écritures du réel. Il faudrait d'abord se mettre d'accord sur cette notion de réel et non pas de réalité. Je précise bien. Est-ce que le réel existe ? Si le mot existe, peut-être que le réel existe. En tout cas, pour moi, je me référerai à la proposition de Jacques Lacan, le réel, c'est ce qui cogne, c'est ce qui s'obstine, c'est ce qui résiste. Et dans ce cas, quel moment dans la vie cela nous cogne-t-il ? Alors, de la manière la plus quotidienne, quand on se cogne, effectivement, contre quelque chose qui résiste, malgré tout, il faut savoir que cette table n'a pas une arête aussi droite que nous la voyons. Il y a un champ moléculaire qui bouge autour. Et donc, qu'est-ce qui est réel dans cette table que nous voyons ? Mais il est vrai que ce qui résiste, eh bien, ce sont des expériences existentielles, souvent douloureuses, à savoir la maladie et la mort. J'ai demandé à un scientifique qu'est-ce qui est réel. Il m'a dit ce qui toujours a le même effet. Une hache, ça coupe. Et ça coupe toujours. Mais rien ne nous empêche de décorer la hache et d'en faire un objet artistique. Alors, quant aux écritures du réel, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un oxymore. Parce que dès qu'on prend le stylet ou qu'on prend le stylo, l'acte même d'écrire ou de sculpter ou de dessiner fait intervenir un pas de côté, une transposition et une fiction. Je ne parlerai même pas, mais on peut en parler, de ces figures stylistiques qui s'éloignent énormément d'une langue parlée que l'on imagine réelle, mais même de la façon dont on se raconte ou dont on raconte une histoire, dont on est le protagoniste ou dont on a été témoin. L'écriture d'abord, puis la dramaturgie ensuite, puis la stylistique in fine, sont des écarts par rapport à ce qui nous cogne. Même si nous avons des moyens dramaturgiques et stylistiques pour faire sentir aux spectateurs que ça cogne. Et je crois que tu en donneras, je ne veux pas dévoiler ce que tu vas dire, un exemple patent. C'est pas sûr que tu le dises, alors, mais ça serait bien qu'on y revienne, mais je ne veux pas déflorer ce que tu as dit tout à l'heure dans la préparation qui a fait un effet de réel autour de la table assez radical. Donc, dans les écritures du réel destinées à la jeunesse, il me semble qu'il y a, de toute façon, un point de départ thématique qui est quelquefois l'autobiographie ou la biographie de l'auteur, des expériences personnelles, qu'elles soient d'ailleurs traumatiques ou pas si traumatiques que cela, et ensuite une prise en compte, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, de ce que nous vivons dans notre vie quotidienne et dans notre vie sociale, politique, nationale et internationale, c'est-à-dire comment le monde nous affecte, rentre en nous et comment ensuite nous l'interprétons. Malgré tout, nous nous sommes posé la question, là en amont de la table ronde, jusqu'où aller dans cette écriture du réel ? Est-ce que, sur le plan dramaturgique, nous choisissons un réalisme peut-être radical ? Est-ce que nous faisons un pas de côté ? Est-ce que nous faisons peut-être pas des ornementations, mais en tout cas des transpositions ? Nous nous sommes interrogés aussi en amont sur la question de la fin de la pièce. Est-ce que nous désespérons la jeunesse ? Est-ce que nous avons une position éthique vis-à-vis de la jeunesse, à savoir faut-il ou avons-nous le droit de désespérer nos jeunes et nos adolescents ? Ou est-ce que nous les mettons à mort si nous les désespérons ? Je pense que tu en parleras ensuite, Annabelle. Donc, fin ouverte, fin fermée, fin pessimiste, fin peut-être onirique, mais il s'agit là de retrouver le rêve, je ne sais pas, ou fin prometteuse. En tout cas, nous sommes tombés d'accord pour dire que nous ne souhaitons pas de fin niaise ou mièvre, et que nous, en Europe, nous avons peut-être tendance à nous marier et avoir beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas de ces fins-là dont nous parlons dans le théâtre jeunesse. Donc une ouverture qui permet aux jeunes spectateurs de poursuivre la rêverie à partir du spectacle et des images du spectacle et d'ouvrir des portes, d'ouvrir des espaces en lui, des espaces hors de lui qui sont des espaces oniriques ou de rêverie éveillée. Voilà ce que je peux dire. Alors on m'a dit, peut-être que tu parles de ton œuvre personnelle. Alors bon, je vais essayer. parce que c'est difficile d'adopter la position philosophique et l'autrice. Mais bon. Donc moi, je pars d'événements, évidemment, ou politiques, ou quotidiens. Je vais prendre l'exemple du dernier texte que j'ai fini il y a 8 jours pour Jean-Claude Gall et le Théâtre du Pélican à destination d'adolescents, dans un projet triennal qui s'intitule « Jeunesse-philosophie ». Et donc, il s'agit d'une pièce à partir de la dialectique du maître et de l'esclave d'Hegel. Et j'ai travaillé sur les challenges adolescents, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont ces défis absolument morbides et mortifères dans lesquels s'engagent pour des longs mois parfois ou de manière plus rapide des adolescents et des adolescentes qui les conduisent à la mutilation, à la mort, au suicide, à l'empoisonnement et qui évidemment suscitent des questions. Qui est le maître? Qui soumet? Est-ce que l'esclave qui fait le challenge accepte de se soumettre ou se révolte? Et comment se joue cette dialectique? Et comment la philosophie va permettre, en dénouant ou en explicitant, en mettant en lumière des concepts de dialectiser, de soumission et de domination, va peut-être permettre d'ouvrir un autre espace de rêverie éveillée, parce que le rêve n'est pas antinomique avec la philosophie, et de s'approcher à la fois d'une éthique de soi et d'une éthique des autres et d'une joie d'exister.
Pour cette présentation générale philosophique et puis aussi sur la présentation de ton projet rapide, ce qui fait que, en fait, les prochaines questions, je vais vous les adresser à toutes les trois dans un premier temps et ensuite à Yacouba quand il nous rejoindra. Le Yacouba Konaté, j'en dis deux mots parce que je l'ai vu, j'ai vu son spectacle il y a quelques jours à Moirans-en-Montagne, au festival Idéclic. J'ai la chance de programmer depuis l'an passé. C'est une pièce qui joue depuis 2 jours, je crois, ici. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Et dans Le jeune Yacou, donc, Yacouba aborde la question de l'exil de manière très personnelle, puisqu'il s'agit de malheureusement pour lui d'un vécu qu'il retravaille, redit, rejoue, remet en scène à chaque fois lors de ses représentations. On l'attendra pour nous en parler. À ma droite encore, après Dominique, donc Magali Mougin. Pardon ? Ah, je t'appelle Mougin et c'est Mougel, pardon. Alors, excusez-moi, parce que j'arrive donc directement du Jura après 60 représentations en 4 jours. Donc, je ne suis pas encore tout à fait, pas complètement atterrie ici, mais vous me reprendrez. Je suis désolée. Donc, Magali, et ensuite à ta droite encore, Annabelle Sergent. Voilà. Mesdames, vous êtes autrices, vous adressez. Entre autres au jeune public, en tout cas on va parler de ces pièces-là. Et dernièrement, vous avez écrit, donc, en ce qui concerne Annabelle, le projet qui s'appelle Wynak, c'est ça, avec Catherine Verlaguet et Magali Schell-Schock. Pas en coécriture complètement, mais vous allez nous préciser ça dans un travail avec Annabelle, en tout cas. Il s'agit d'un diptyque sur le thème de la guerre et de l'exil. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous présentiez ces pièces, ces textes, racontés sans tout dévoiler l'histoire rapidement, et l'une et l'autre, s'il vous plaît.
Bonjour. Donc en fait, cette idée de diptyque, elle naît d'abord d'un rêve. Elle naît en fait en 2015. À l'époque, moi j'ai plutôt une pratique de conteuse qui s'est éloignée largement de l'image qu'on peut en avoir, mais enfin peu importe. Et je clôt en fait une trilogie. Et le dernier volet de cette trilogie, c'est la réécriture de la légende du joueur de flûte de Hamelin. Qui parle en fait d'une société au Moyen-Âge, en tout cas une société extrêmement prospère, qui est faite par des adultes, pour des adultes, et dans laquelle la présence de l'enfance et de la jeunesse n'est pas prise en compte. C'est ce que raconte la légende du joueur de flûte de la main. Si vous prenez des albums et des illustrations, vous verrez que la présence graphique des enfants dans la ville ou de la jeunesse dans la ville n'apparaît qu'aux trois quarts de l'histoire, c'est-à-dire en gros quand ils partent. Donc cette histoire raconte en gros, en substance, qu'on s'aperçoit de la valeur des gens quand on les a perdus. Je trouvais ça un peu délicat d'aller raconter ça, en tout cas de prendre ce volet-là pour... comme perspective à raconter au jeune public. Alors avec Vincent Loiseau, avec qui on a coécrit le spectacle, on a renversé la dramaturgie et on a décidé de réécrire cette légende contemporaine et de l'écrire à hauteur d'enfant, c'est-à-dire de renverser. C'est-à-dire que la présence des adultes dans l'histoire, elle est quasi inexistante. Ou en tout cas, les adultes ne peuvent pas s'identifier. Donc ils sont un peu mis à la porte du spectacle et on parle que de la perte et de la perte de l'enfance. Il se trouve qu'en 2015, en fait, on se trouve... Donc ça, c'est un récit de fiction. On est en 2015, on fait le scénario avec Vincent Loiseau pendant les attentats de Charlie Hebdo. On allume la radio, on est en train de faire le scénario de cette pièce qui est un peu sombre, et voilà. On joue le soir du Bataclan, on joue ici, au Grenier à sel, en juillet, le 14 juillet. Et ce qui se passe, c'est que la question de l'écriture, qui est, c'est une fiction en fait, voilà, c'est une histoire, on est dans un conte, c'est pas un conte merveilleux, c'est une légende, mais on est quand même proche de quelque chose qui n'existe pas, même si dans l'écriture, on a ramené énormément de choses de ce qu'on pourrait appeler la réalité, en tout cas une pseudo-réalité. Et qu'en fait, quand on joue, en fonction de l'état du monde extérieur, en tout cas de ce qui se passe en France, l'épaisseur entre ce qui fait métaphore et le réel, ça me nuise, à tel point que le plateau de théâtre se met à trembler lui-même. C'est-à-dire, le 14 juillet, moi, j'ai regardé en boucle, en fait, des images sur mon téléphone de ce qui se passait à Nice. Et le lendemain, on joue ça, les spectateurs dans la salle, en fait, il se joue quelque chose dans la boîte noire qui tremble. Ça se met à trembler. Et pour le coup, c'est assez vertigineux. Sortant de là, je me dis, bon, ben, peut-être que la fiction, elle est nécessaire, mais là, à un moment donné, je ne peux pas poursuivre dans ce champ-là, il faut ouvrir un autre champ. Ça m'est nécessaire d'ouvrir un autre champ. Et ça part d'un rêve. On est donc 2015-2016, Raqqa est bombardée, en fait, puisque Daesh installe une grosse partie, en fait, de ses troupes à Raqqa, fait des enfants de Raqqa, des enfants soldats. Et pendant ce temps-là, les enfants ici en France, en fait, font des expériences, mais vous savez, les trucs où ils se mettent sous les tables, la corne de brume, il reste une demi-heure sur les tables à pas comprendre, les exercices de confinement. Et il faut expliquer, voilà. Et je me demande, en fait, à ce moment-là, si un enfant qui est d'un côté de la Méditerranée avec sa Kalachnikov qu'il n'a pas choisi de porter, et puis un qui est sous la table en train de faire ses exercices de confinement pendant une demi-heure, à se demander ce qui est en train de se passer et à s'inventer lui-même quelque chose, sans doute une histoire parallèle pour pouvoir arriver à comprendre. S'ils avaient à se rencontrer, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il resterait en fait de commun? Qu'est-ce qu'il ferait que les circonstances dans lesquelles chacun grandit, auraient modifié une perception du monde? Est-ce qu'ils auraient quelque chose encore de commun de l'enfance ou pas? Moi, j'aimerais que oui, mais après, j'en sais rien en fait pour de vrai. Et je tombe dans les recherches, en fait, dans ces recherches-là, je tombe sur un reportage photographique de Magnus Venman, qui est un grand reporter, qui a eu le World Press, le prix World Press, pour un reportage qui s'appelle Where the Children Sleep. Et Magnus Venman a photographié des enfants sur la route de l'exil en Europe, et les a photographiés. Bonjour. Là où il dormait. Il les a photographiés partout là où il dormait. Et le reportage est à la fois magnifique et terrifiant, puisqu'on voit des enfants dans la forêt, on voit des enfants sur des matelas, on voit des enfants sur des routes. Voilà. Donc, ce travail qui est extrêmement onirique et en même temps qui montre le réel de manière assez terrifiante, en fait, me marque, et je me pose cette question: à quoi rêvent les enfants en temps de guerre? Même si à l'époque, on a beau dire qu'on est un pays en guerre, pour de vrai, on ne l'est pas, parce que la guerre, ça a des règles. Donc on est dans autre chose. Vient en fait cette proposition, parce qu'en fait, quand on commence à mettre les mains dans ce genre de sujet, on ne fait pas une création, c'est impossible, c'est tellement énorme. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est parti pour au moins deux créas. Et du coup, le premier volet de ce diptyque, à quoi rêvent les enfants? Donc, il y a deux paramétrages pour le diptyque. À quoi rêvent les enfants en temps de guerre? Et ce qui me paraissait hyper important, c'est quand on est quand même le troisième ou cinquième, ça dépend combien on vend à l'Arabie Saoudite d'armes, mais on est quand même le troisième ou cinquième vendeur d'armes au monde, et écrire une pièce en tant que bobo occidental sur la guerre des autres sans se poser la question de l'endroit où elle est écrite, et c'est pas juste une histoire de légitimité, légitime, pas légitime, c'est l'endroit d'où ça part, l'endroit d'où ça se regarde et ça s'énonce. Inclure en fait le point de vue occidental dans les pièces était quasi une histoire de décence. Voilà. On ne pouvait pas aller écrire sur l'histoire des autres, écrire sur l'exil des autres, l'histoire des autres, et à nouveau continuer, ben on va vous raconter votre histoire, et en même temps on vous vend des armes, ce n'est pas très grave, on fait tout à la fois, on vend des armes et on re-raconte les histoires. Et donc le diptyque est articulé clairement autour du positionnement en fait, du point de vue occidental. Donc Wainak, c'est une coécriture avec Catherine Verlaguer, et ça veut dire « où es-tu » en arabe, c'est en syro-libanais. C'est un mot en fait que les réfugiés, en tout cas les exilés, utilisent énormément pendant les traversées, puisqu'ils ont leur téléphone portable avec eux. C'est quasi, pour certains, ce qu'il leur reste de plus cher. Et c'est un mot qu'ils s'envoient, parce qu'ils sont quand même majoritairement assez éparpillés pendant le voyage. C'est l'histoire voilà, de Nagi qui se retrouve ici sur le sol français, qui est mineur isolé étranger, qui a en fait, sa grand-mère l'a mise sur les routes avec sa petite sœur Laïa, et elle lui a fait promettre, jurer que quand il arriverait en France, donc elle lui vend la France comme un boniment extraordinaire, de toute façon il n'a pas le choix, il faut qu'il parte, elle lui confie un téléphone et elle lui fait promettre que quand il arrive en France, il doit appeler pour assurer la grand-mère et qu'elle ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas appelée. Il est suspendu à la vie et la mort de sa grand-mère. Sauf que dans le voyage, il perd sa sœur. Et quand il arrive en France, il est en double exil, c'est-à-dire exilé de son propre pays, enfin en triple, exilé de sa langue, et il y a aussi cette perte de la sœur. Voilà, qui tant qu'elle n'est pas résolue, tout le reste ne peut pas se résoudre. Et donc il va croiser en fait sur son chemin une ado tout à fait commune, Lily, enfin tout à fait commune, pas tout à fait en fait, qui a une certaine porosité au monde, va-t-on dire, que je préfère dans l'espace du théâtre remplacer le mot « empathie » par le mot porosité, puisque c'est ce que ça demande à l'acteur, une porosité à son travail, et pas jouer des sentiments, mais être traversé d'eux. Et donc c'est dans cette grande maladresse que Lily, on va découvrir en fait l'histoire de Nagi par les maladresses, voilà, les pas de côté de Lily, c'est tout ce qu'on peut se dire et voilà comment on fait en fait pour rencontrer quelqu'un qui a une histoire traumatique et comment on fait pour s'approcher. Des fois on s'approche trop près et puis des fois on est trop loin et puis tout ça est très très inconfortable. Et tout le travail en fait, il est comment Lily, elle est traversée de cette histoire et nous révèle celle de Nagi. Voilà, lui nous la révèle parce qu'elle est là. Voilà, peut-être dire que. Donc ça c'est le premier volet du diptyque et puis le second, en fait il y a quand même un truc, c'est que des textes qui ont été écrits pour la jeunesse sur la guerre et l'exil, il y en a un petit paquet mais il n'y en a pas tant que ça sur les dramaturgies de la guerre. Et il y en a un qui fait œuvre, c'est Le bruit des eaux qui craquent de Suzanne Lebeau, où elle met 2 ans à écrire ce texte, elle finit en Sierra Leone si je ne m'abuse, pour rencontrer Serge Hanimi, qui du coup est un enfant soldat, qui aujourd'hui s'est réparé, il a lâché la Kalachnikov pour la danse. Et elle est obligée d'aller là-bas pour terminer le texte, parce que la fiction ne suffit pas. Et dans Le bruit des eaux qui craquent, j'espère que vous avez eu le bonheur de lire ce texte terrible et magnifique à la fois, elle introduit en fait le point de vue occidental par le biais d'un personnage de l'infirmière, qui vient avec son cahier, et puis l'histoire se joue en arrière-plan. Et l'infirmière s'adresse au spectateur comme étant, on suppose que les spectateurs présents sont les gens du tribunal pénal international. Voilà. Et donc la manière en fait de concerner le spectateur, elle y va assez clairement. C'est un des seuls textes qui induit cette place-là. pas simplement on est le spectateur de l'histoire de l'autre, mais quand on comprend dans le texte de l'infirmière, l'infirmière dit « Ah, faut que j'abrège, ah, je ne peux pas rentrer dans le détail », on comprend qu'en face, on lui demande de faire plus vite parce qu'on n'a pas le temps, c'est glaçant. Voilà. Et c'est à partir en fait, de cet endroit-là que la question du point de vue occidental elle est arrivée pour écrire. Voilà, c'est pas juste une histoire de légitimité, je veux dire, c'est une histoire de qui regarde et jusqu'où, à un moment donné, celui qui regarde, il va pouvoir s'approcher du sujet, pas juste rentrer chez lui et puis fermer le placard 3 jours après, quoi. Oui, voilà. Et donc le deuxième volet en fait du diptyque, c'est que j'ai rencontré l'écriture de Magali Mougel en fait c'était au tout début de ses rêves, puisque c'était en 2016, au printemps 2016, je lisais, et puis je tombe sur Suzy Stork et les guerrières ordinaires. Et tout à coup, je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'écriture de Magali, en fait, me faisait penser à des auteurs que j'aime énormément, qui sont Gabili, et puis Jean-Pierre Siméon, notamment son Stabat Mater Furiosa. Et donc, l'idée a été de lui confier, en fait, l'écriture d'un récit énoncé au féminin sur la question de la guerre. Voilà, à part Magali Mougel, je ne voulais pas trop qu'il pouvait écrire ça, en fait. Donc, on est rentrés en contact et on a mis un peu de... Voilà, on a pris le temps aussi de travailler ce qu'elle a écrit chez Le Choc, voilà, qui va sortir bientôt.
Je te propose d'en parler, tout naturellement.
Voilà. Bonjour. Je vais essayer de ne pas être redondante, mais qu'est-ce que vous voulez savoir ?
On aimerait savoir de quoi il s'agit. Hein, la question, c'est l'affrontement entre l'armée irakienne et américaine. Enfin, ça tourne autour de ça. Donc, est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de l'histoire traitée et puis de ta manière d'écrire ce projet, de te documenter, de nourrir cette histoire, cette fable ?
Ben, peut-être déjà juste pour
proche
présenter
du théâtre documentaire, pardon, voilà, on en parlait tout à l'heure.
Mais non, c'est pas,
mais
du,
qui
théâtre
n'est pas du théâtre documentaire,
mais c'est un, enfin, je vais plutôt parler généralement de mon processus d'écriture, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus il me semble important d'être dans une démarche documentée, d'enquête, et donc ça va aussi un peu à contre-courant de la rapidité dans laquelle parfois on doit être dans les schémas de production. Voilà. Et donc, moi j'ai besoin de temps, et ce qui fait que c'était un plaisir de travailler avec Annabelle, c'est qu'on avait du temps, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en 2016, et donc le spectacle sort en 2019. Et c'est-à-dire que il y a eu le temps aussi de réfléchir, il y a eu aussi le temps que le spectacle et le travail d'écriture de Wynak existent, mais aussi pour pouvoir simplement se poser les questions, parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'écrire, c'est un truc qui va hyper vite. Bah, tu prends un stylo, t'écris, t'ouvres ton ordi, et puis voilà, on part de ce qu'on éprouve. Hein, voilà. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et moi, j'ai besoin en tout cas de chercher, de lire. J'ai l'impression que si je ne deviens pas spécialiste du sujet sur lequel je vais travailler, je ne vais pas être à la hauteur de l'événement. Et donc, je trouvais ça exorbitant comme sujet de dire à quoi rêvent les enfants en temps de guerre. Et assez rapidement, dans la continuité de tous les questionnements que Annabelle a énoncés par rapport à l'écriture de Wynak, il y avait comme ça, comme texte pivot ou genèse à ce projet, le très beau texte de Jean-Pierre Siméon, le Stabat Mater Furiosa, qui fait donc, qui laisse la parole à une femme interpellant nous occidentaux dans notre responsabilité sur les conflits armés au Liban. Et donc, à la vue de ce texte, il s'avère que c'est peut-être aussi une chose qu'on partage, c'est que moi je suis très admirative de l'écriture poétique de ce poète qu'est Jean-Pierre Siméon. Ça a été par ailleurs un des auteurs qui m'a accompagnée dans ma formation quand j'étais élève à l'ENSAT. Et je ne voyais pas très bien l'intérêt de faire une sorte de réponse d'écrire un autre Stabat Mater, puisqu'il existait. Donc en rigolant, j'ai dit à Annabelle, monte le Stabat Mater Furiosa, quoi. tout simplement. Et on sentait qu'il fallait aller plus loin. Et il s'avère que moi, je suis passionnée de photographie, que j'aime beaucoup, enfin, je lis de la photographie. Je ne sais pas si on peut lire ça, quoi, mais enfin, voilà. Et tout d'un coup, dans les premiers échanges qu'on a eus, il y a eu cette intuition de se dire, mais en fait, qui est-ce qui regarde le monde et qui sont ces yeux qui nous ramènent aujourd'hui des images? Et bien, c'est la réponse, elle est simple, hein. C'est que ce sont ces journalistes qui parfois prennent des risques démesurés pour aller au plus proche des événements. Et pour nous en rendre compte, alors nous, aujourd'hui, on a quand même un regard un peu négatif comme ça sur les journalistes. On dit, ouais, ils nous mentent, c'est tous des escrocs, etc. Et où on se dit, ah, mais pourquoi toutes ces images-là? Pourquoi ces types vont chercher ces images-là? À quoi ça sert de nous montrer ces images-là? C'est pour nous faire culpabiliser. Et en fait, nous, ce qui a commencé à nous intriguer, c'est aussi pourquoi, à un moment donné, des personnes prennent des risques, mais aussi vont à la rencontre d'humanité, d'humains, d'histoire. Et on a vite compris qu'en réalité, ils étaient dans cette pensée qui peut paraître utopique, ou utopiste, je ne sais pas comment on peut dire, si utopique, ou c'est utopique en tout cas de penser ça, que rendre compte de ce qui se passe à 4000 km de nous, si on parle de l'Irak, c'est aussi dans une volonté qu'un jour il y ait la paix dans le monde. Alors ça paraît très bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment une démarche qui est derrière. Et puis aussi, on a très rapidement compris, puisqu'on a rencontré un certain nombre de photoreporters. Et je ne vais pas dire photographe de guerre, parce qu'il s'avère qu'on a aussi, on va le dire, lié des amitiés avec des photographes qui... et c'est là peut-être, moi, la distinction que je ferais en termes de mots, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement des gens qui vont comme ça prendre des photos. Enfin, faut juste avoir conscience qu'appuyer sur un appareil photo, c'est 10 grammes, quoi. Donc a priori, vous pouvez tous le faire. Par contre, d'essayer d'aller rencontrer des personnes qui vivent effectivement dans des climats qui sont des climats de guerre, sur ce qu'on appelle des théâtres de guerre. Peut-être ça prend plus de temps. Et c'est vrai que nous, on s'est intéressé à des photoreporters qui militent pour un journalisme et une investigation au long cours. Voilà. Et qui, par conséquent, choisissent quelque part aussi de raconter des histoires. Et aussi, on a eu la chance de rencontrer des personnes qui ne vont pas que traquer le sensationnel, mais qui choisissent d'emprunter des chemins de traverse pour essayer de rapporter autre chose que toutes ces images, finalement, qui sont balancés sur les écrans, puisque j'invente rien, hein, je veux dire, Annie Lebrun l'a dit très bien dans Du trop de réalité, on est saturé d'images, par contre, il nous manque un certain type d'images. Et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont à même de rapporter d'autres types d'images. On a Avignon, mais il y a Arles, et par exemple, je vous conseille d'aller voir le très beau travail qu'a fait Philippe Chancel, voilà, par exemple, sur les data zones. Mais parenthèse faite, ça nous semblait en tout cas pertinent d'aborder cette question par le prisme de la photographie. Et après, la deuxième question qui s'est posée, c'est bien beau de parler de la guerre, mais on parle de quelle guerre? Parce que même si toutes les guerres, elles ont quelque chose de commun, moi, ça me semblait quand même très curieux de parler de la guerre en général. Et il y a eu une première version comme ça qui parlait de la guerre en général. Et en réalité, cette première version, elle est partie à la poubelle parce que, à part rajouter de l'horreur à l'horreur, ça n'apporte rien du tout. Et je trouvais qu'il y avait une indécence, en tout cas dans mon geste d'écriture, de venir imaginer de la catastrophe sur quelque chose qui est là. Et donc, à un moment donné, on reconvoque aussi ce qui est de l'ordre du réel pour nous, ce qui cogne pour nous. Et donc, je raconte cet exemple que j'ai raconté tout à l'heure. Forcément, on s'est posé cette question, Annabelle et moi, à partir du moment où, enfin, nous avons pris conscience qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionne dans le monde. Alors, ce n'est pas de se dire que le réveil matin n'est pas bien réglé, mais de se dire que, finalement... nous n'avons pas tous la même vie et que ce réel exorbitant nous impacte et qui reste, comme le dit très justement Annabelle, stocké, c'est une expression qu'Annabelle utilise beaucoup, stocké dans la rétine. Et ce sont ces images dont on ne sait que faire. Et on pourrait faire l'exercice en fonction des générations. vous avez forcément une image qui vous reste en tête quand vous aviez 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je t'avais posé la question, Geneviève. Je me souviens à Grenoble quand on était très fatigués. Et voilà, en fait, si on commence à se poser cette question, on va s'apercevoir qu'il y a une image comme ça dont on ne sait pas quoi faire. Alors, moi, je vous raconte c'est quoi mon image, hein, parce que ça a un lien avec ce texte. 89, guerre entre l'Irak et le Koweït. On a accès à un certain nombre d'exactions qui sont commises par le régime de Saddam Hussein déjà à cette époque. Et je vois à la télévision, dans la nuit, parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, mais depuis toujours, je découvre qu'on peut éplucher la peau des hommes. Voilà. On retrouve aux sorties des prisons de Saddam Hussein des lambeaux de corps, c'est-à-dire à l'image d'une carotte épluchée, on découvre des lambeaux dans les poubelles de Saddam Hussein. Forcément, cette chose-là, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc moi, quand j'en parle aux adultes, on me répond « mais c'est une chose que tu as inventée ». Donc on reste avec cette chose en se disant « mais c'est inventé ». Puis au bout d'un moment, on se dit « mais quand même, j'ai essayé de retrouver cette image ». Et puis, comme je n'arrive pas à remettre la main sur cette image, je finis par croire moi-même que je l'ai inventée. Sauf qu'à force d'être confrontée à la... Il faut quand même qu'on ait conscience qu'il y a un verrou symbolique qui a pété dans nos vies. Hein. Et quand on voit ce que les hommes, les femmes sont en capacité de faire subir à d'autres, je prends assez rapidement conscience que le Yémen est un très bon exemple, par exemple. Je prends conscience que peut-être cette image n'est pas totalement fantasmée. Hein, voilà. Et donc, on va dire que depuis un certain nombre d'années, je m'intéresse à l'Irak, à l'histoire de l'Irak, à l'histoire de ce pays dont aujourd'hui ne subsiste aucune photo de ce pays qui est complètement détruit, un peu à l'image de la Syrie. Et puis, ben, surtout, 2003, après 2001, l'invasion américaine, et vraiment, je revendique ce terme d'invasion, après, on pourra parler de géopolitique si vous le souhaitez, mais après cette invasion américaine en Afghanistan où une chasse à l'homme est mise en place, eh bien, 2003, rebelote, même processus. Et bien, dans les 10 premiers jours de l'invasion de l'Irak par l'armée américaine, un incident diplomatique est causé. L'armée américaine est pilonnée pendant un certain nombre d'heures par les milices de Saddam Hussein, par l'armée de Saddam Hussein. Et par erreur, l'armée américaine, enfin en tout cas un homme, parce qu'il y a toujours un homme derrière, c'est pas juste un collectif, une erreur est commise, puisqu'il semble voir des snipers dans un immeuble du côté du fleuve Tigre, de l'autre côté du pont Al-Jumouria, pour être précise. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande s'il peut avoir l'ordre de tirer. Il tire, manque de bol, ces deux journalistes qui sont en train de fumer une clope sur les balcons. Puisqu'en fait, il s'agit du célèbre hôtel Palestine qui héberge historiquement tous les journalistes présents en Irak depuis toutes ces guerres consécutives. Et donc, je comprends qu'il y a toujours un procès en cours contre les États-Unis d'Amérique. À ce jour, il n'est pas résolu. Et donc, je commence à entrer dans une enquête, à essayer de comprendre ce qui se passe là. Il y a un très bel ouvrage de Jean-Paul Marie qui s'appelle « Sans blessure apparente ». Et puis, je découvre aussi des photos d'un photographe qui s'appelle Patrick Bass, qui aujourd'hui ne couvre plus de conflits armés, mais qui est correspondant pour l'AFP au Liban et qui fait davantage de la photo touristique. Pas pour le plaisir de faire du tourisme, simplement, c'est le premier journaliste qui va rendre compte du fait que parfois, à force de s'approcher trop proche du réel, on n'en sort pas indemne. Et c'est les deux premiers journalistes, en tout cas travaillant pour l'AFP, qui vont, en tout cas concernant Patrick Bass, qui va faire reconnaître ce statut de syndrome post-traumatique dans le milieu du journalisme. Après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, lui ne va pas forcément écrire, mais il va parler dans les journaux de ça. Et donc, dans toutes ces photographies que je découvre de Patrick Bass et d'autres photographes, je m'aperçois qu'il y a toujours une jeune fille, une petite fille, pas une jeune fille, c'est important, une petite fille qui tourne autour de l'hôtel Palestine, qui parle avec l'armée américaine, qui parle avec les journalistes, et on est en plein pillage. Vous pouvez retourner voir les informations sur France 2, sur le site de l'INA, c'est absolument passionnant. C'est toujours les mêmes images avec des commentaires différents. Mais en tout cas, on est en plein pillage, puisqu'il n'y a plus rien du tout, puisque l'armée américaine bloque tout, et pour le moment, la priorité n'est pas de s'occuper de la population, mais de traquer un homme. Et donc, au milieu de cette espèce de bordel, il n'y a pas d'autre mot, cette jeune fille est là. Et donc, moi, je m'intéresse à l'histoire de cette petite fille qui a été, dont parle Jean-Paul Marie, que photographie par ailleurs Patrick Baze. Voilà. Et donc, quelque part, ce texte, c'est ni plus ni moins... L'histoire, en fait, c'est pas un thriller, donc, je veux dire, je vais rien vous spoiler du tout, hein, puisqu'on n'écrit pas, c'est pas un truc policier, donc on peut parler du fond de cette histoire, mais c'est un texte qui est écrit pour une comédienne, mais qui a une dimension polyphonique, et l'expérience théâtrale qui est proposée, parce que quelque part, on propose toujours une expérience à celui qui vient écouter, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces images dont on ne sait que faire, et l'image avec laquelle cette journaliste et cette photographe revient, c'est l'image de cette petite fille qui s'appelle Hayat dans ce texte, Shell Shock, qui meurt sous ses yeux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces images et comment aussi on répond à ces patrons, ces rédacteurs en chef qui sont comme ça très, très harcelants pour obtenir au plus vite les photos les photos qui ont été prises. Enfin voilà, okay. Très rapidement.
Merci. Je vais demander maintenant à Yacouba qui nous a rejoint. Merci de nous rejoindre parce que il joue deux fois chaque matin depuis avant-hier ici même et d'autres fois avant. Donc je le disais à Moira en montagne. J'espère que tu es pas trop fatigué. Tout va bien?
Oui, un peu fatigué, mais ça va.
Ça va, bon, super. Mais je veux bien, voilà, tu nous rejoins, mais on était en train, voilà, je demandais à nos invités de présenter leur projet. Si tu veux bien nous dire deux mots du jeune Yaku, pour deux mots du jeune Yaku, oui. Ton spectacle que tu interprètes avec Wally, Yacouba, et le spectacle s'appelle Le jeune Yaku, oui, et que tu interprètes donc avec Wally, qui est un musicien.
Ok. Le jeune Yaku retrace l'histoire vécue de l'auteur lui-même, qui était contraint de fuir son pays en 2010 jusqu'à son arrivée dans un camp des réfugiés. Et ensuite encore, il a continué son voyage jusqu'en France. Donc ça retrace les parcours, les pays qu'il a traversés, de son pays natal jusqu'à son arrivée en France. Et l'histoire, c'est son histoire d'exil. On ne peut pas la raconter comme elle a été vécue, au fait. C'est-à-dire, il y a des parties où il y a eu trop d'atrocités dans les prisons de la Libye, l'esclavage et autres. Et puisque le projet... est destiné à un jeune public. On essaie d'atténuer un peu ce côté, je dirais, sauvage un peu, adapter ça au public, quoi, au jeune public. Et chaque paragraphe du spectacle est clôturé ou est bouclé par une chanson qui a un rapport avec le paragraphe. Et il y a des chansons où le public participe avec... l'auteur lui-même, ou soit ils écoutent tout simplement. Donc, c'est un voyage. Le jeune Yaku, c'est un voyage. Quand tu viens au spectacle du jeune Yaku, c'est un voyage. Vous commencez. Au début, peut-être ça fait rire un peu. Après, ça pleure. Et après, on rigole. Après, on pleure et on continue. Donc, c'est un voyage, quoi. Et c'est ce qui fait le charme du jeune Yaku. Voilà. Le jeune Yaku a été créé à l'atelier des artistes en exil en 2017. Au départ, l'auteur ne voulait pas raconter l'histoire parce qu'il se voyait mal parler de sa vie privée en long et en large devant des inconnus. s'est dit non, je ne pouvais pas, mais avec les encouragements de Judith Despaules, comme la nuit porte conseil, il a beaucoup réfléchi la nuit et il s'est dit bon, je vais essayer d'adapter l'histoire à mon public. Et voilà, c'est chose faite et ça tourne un peu. Donc, de 2017, depuis Montreuil à Paris, jusqu'à Y Déclic, et aujourd'hui à Avignon. Donc, le jeu Niakou, ça tourne.
Oui. Et ça va continuer de tourner, effectivement. Alors, on l'a compris, donc c'est l'histoire de ta vie que tu racontes, et c'est présenté, c'est dit à la troisième personne, c'est-à-dire que tu es un conteur sur scène qui raconte l'enfer sur terre, cet enfer-là, et tu, voilà, tu avais peut-être besoin de distance pour être capable de porter ces propos, et donc c'est dit à la troisième personne, et comme tu l'as expliqué, effectivement, entrecoupé de musique extrêmement enlevée, dynamique, joyeuse, et en effet, tu nous promènes dans tous les spectres des émotions, de l'immense tristesse à la joie aussi. Hein, voilà, tu arrives à susciter des élans, des envies de liberté, de libération. Voilà, tu nous fais rêver un autre monde possible, et on peut, en tant que spectateur, y adhérer. En te voyant là, tout simplement, sur scène, capable de porter, de redire et redire ces récits d'une personne qui a échappé à cet enfer. J'avais envie de vous demander à tous à quelle catégorie de jeunes spectateurs vous vous adressez et comment vous réussissez à ne pas justement les démoraliser définitivement en leur parlant de ces sujets graves qui sont au cœur de vos spectacles.
Alors, est-ce que je peux poursuivre un peu ta question aussi, parce que depuis, en vous écoutant là, je me dis oui, ces images, ces histoires sont source de création, mais comment justement, et ça rejoint ta question, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans les enfants? Comment, si on reprend alors l'expression de Boris Cyrulnik, comment elle suscite des rêves qui va leur permettre de grandir. Alors, est-ce qu'on peut parler de rêve? Ça rejoindra Dominique tout à l'heure. Tu nous parleras certainement de cette capacité, de ce que signifie aussi le mot rêver. Mais c'est aussi ces créations-là, elles rejoignent les enfants. Bon, ce que tu as fait, Yacouba, pour moi, c'était évident que ta façon d'être sur le plateau, ta façon d'entrer en relation avec les enfants, les jeunes gens qui étaient là, donner, parce que tu viens de dire, hein, donner beaucoup d'énergie en fait et de désir de vivre, mais comment l'enfant, lui, il est marqué? Ça rejoint alors peut-être ce que tu vas aborder sur la question des âges, mais pourquoi leur raconter en fait ces histoires-là? Enfin, voilà.
Alors, peut-être juste en quelques mots, pourquoi leur raconter ça? C'est parce qu'en fait, les enfants, ils ne vivent pas dans une bulle qui est hors du monde, ça se saurait. Et que nous, en tant qu'adultes, on est au courant, en fait. Enfin, si on veut bien se mettre un peu au courant, on est au courant un peu de... Qui est-ce qui parlait du... Je sais plus. De l'État, quoi. Un petit peu de ce qui se passe là, de ce monde qui tremble. Et que les enfants ne sont absolument pas en dehors de ça. Alors, et surtout, ils en ont la perception de ce tremblement, de ces choses. Il y a quelque chose de l'inquiétude, en fait. On le voit, il l'a dit tout à l'heure, Joris aussi. Voilà, donc, en fait, la question, c'est pourquoi on leur en parlerait pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va continuer de taire les choses? Et un jour, en fait, un jour, on est allé lire Waynak avec, dans la race campagne, par chez moi, machin. Je demande, c'était des cinquièmes, je leur dis, ça va? Ça va? Ouais, ouais, madame. Il y a un gamin qui dit, ouais, moi, les réfugiés, c'est bon, ras-le-bol, quoi. Je dis, bon, bah, t'as le droit de dire ça, hein, en même temps, vas-y, dis-le. Enfin, je sais pas, c'est ton droit de le dire. Je l'entends. Je suis pas d'accord, mais je l'entends. Et un autre qui dit, bah, tu sais, moi, madame, je suis contente d'avoir entendu ça. Parce que je préfère le savoir maintenant à 12 ans plutôt que vous me disiez ça à 18 ans et que j'ai pas le temps de me préparer. Mais voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'en tant qu'adulte, on censure l'endroit de leur propre réflexion, parce qu'on a la trouille tout simplement d'expliquer, tout à parce fait. Qu'on n'a pas les réponses. Oui. Ou est-ce qu'à un moment, on se dit, ça les concerne, à nous de trouver la forme et on parlait aussi de la question de la précaution. Je pense que la question de la précaution, elle est là, dans, à la fois dans le processus de création et dans l'écriture, etc. Et donc de la poétique, ça induit forcément la question de la poétique. Mais pourquoi on ne le ferait pas? On ne va pas les mettre dans du coton.
Alors, peut-être... Ah, pardon. Si non, non. Question, ça va Yacouba, je veux bien, comme tu viens de nous rejoindre et que tu as commencé à présenter ta pièce, je veux bien en effet que tu répondes à cette question-là, justement. À quel type de public tu t'adresses? À partir de quel âge voilà. Et comment enfin, moi, j'ai vu les représentations adresser un public familial avec des enfants quand même assez jeunes et des adultes. Et j'ai l'impression qu'il y a une double adresse que tu négocies très très bien avec les spectateurs.
Bon, à la naissance du jeune Yacou, en 2017, on avait pensé à un public des 4, 5 et 6 ans. Mais après notre passage à Montreuil, on a vu que non, ben, il fallait augmenter un peu l'âge. Vous comprenez? Et ce qu'on a beaucoup constaté au fil de ces années-là, on a vu que non, ben, si c'était dans les collèges, quand nous on passait dans les collèges, là, c'était les enfants de la classe de 4e. Et là, le message était fort, le message passait bien. Mais quand c'est dans des spectacles, des festivals et autres, là, c'est la famille qui venait. Et tout le monde prenait sa dose. Vous comprenez? Ça dit, les adultes, même quand on est adulte, il y a un enfant qui dort en nous. Vous comprenez? Donc, le jeune Yacou, la manière dont je suis sur scène devant les enfants, c'est la même manière, même s'il y a des adultes en face de moi. Et je vois qu'ils réagissent de la même manière. Au lieu que les enfants pleurent, c'est les adultes maintenant qui pleurent. Et j'ai remarqué ça depuis IDéclic et ici aussi au Festival d'Avignon. Je vois que je n'ai pas assez d'enfants devant moi. Et le message est toujours le même. L'amour reste au roi, quoi, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a une morale, en fait, ton spectacle est construit comme un conte avec une morale à la fin. Vous allez nous dire aussi, vous, parce qu'on s'est posé la question de la fin hein, des histoires. Je veux bien qu'ensuite, Annabelle et Magali, vous disiez comment, d'un point de vue formel, vous concluez, comment vous terminez, avec ou sans morale, avec ou sans vraie fin. Voilà, je veux bien vous entendre là-dessus.
Ben, pour Wainak, en fait, la question de la fin, elle s'est posée très fortement, puisque le processus de création lui-même a induit de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on a monté des résidences d'écriture avec ma compagnie et des partenaires culturels à Reims, à Nova Villa, chez Joël Simon, où là, on a été accueillis pendant un an, en fait, dans une classe de français langue seconde, donc avec des primo-arrivants, 25 ados, 12-17 ans, quasi 12 langues différentes et un tiers de ces enfants arrivaient de l'Érythrée, Syrah, Kiri, on avait même un gamin qui était sorti tout droit des ruines de Mossoul. Ça faisait 15 jours qu'il était là, il refusait de parler irakien. Et d'ailleurs, il refusait de parler tout court. Et donc on a alterné avec Catherine Verlaguet des résidences là-bas à Reims dans cette classe avec voilà et puis des résidences en race campagne par chez moi CE2, CM1, CM2. Et il n'y avait pas de problème, enfin, il n'y avait pas de réalité de l'exil, voilà, de la guerre, un peu plus. Mais ça arrive par ricochet. Et du coup, le fait d'avoir à les rencontrer, de travailler avec eux, les mains dans le cambouis, je dis bien les mains dans le cambouis, parce qu'on ne fait pas de l'action culturelle quand on arrive avec un sujet comme ça, vu que de toute façon, l'action culturelle, ça n'existe pas tant que l'œuvre n'est pas créée. Voilà, ça c'est... Voilà. En fait, ils ont expérimenté avec nous les questions d'écriture. Et nous, surtout, ce qu'on a expérimenté, c'était mais comment on en parle? C'est-à-dire, pour préparer une rencontre, par où on passe pour que la rencontre ait lieu avec ce public? Et pas on arrive, boum, on balance le truc, vous avez compris, on n'est pas là-dedans. Comment la rencontre, elle se produit? Je ne sais plus à quoi j'étais, donc voilà, fin. Et c'est le fait d'avoir nous-mêmes, pendant une année, à osciller... Je dis osciller parce que c'est ça, dans notre rapport à ces deux publics différents. Par exemple, il y a un moment, ça a été très intéressant parce qu'on s'est aperçu que on aimait beaucoup aller à Reims. D'abord parce qu'on boit du champagne, ça c'est sûr. dès qu'on sort du train. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est qu'en fait, ce train, c'était très exotique, puisque les primos avaient une histoire qui n'était pas la nôtre. Et c'était extrêmement sensationnel et émotionnellement très fort. Vous imaginez ? C'est Barjot, hein, d'imaginer ça. Et après, dire, on va à Champigny, puis on s'ennuie à Champigny. Bah justement, le noyau dramaturgique, il est là. C'est-à-dire, à quel moment on va chercher la rencontre, même avec ceux qui nous ressemblent. Parce que si on commence à aller là-dedans, c'est foutu, quoi. Si on commence à trouver que... Sinon, on aurait écrit un truc hyper émotionnel. Voilà, et hyper sentimental. Et c'est pas le cas d'Ouenac. Et donc, cette question de la fin, comme on a rencontré, en fait, des primos, des reporters de guerre, des auteurs en exil, etc., etc., on s'est aperçu, enfin, voilà, que pour les exilés, on ne pouvait pas faire une fin. Ça aurait été... On aurait enlevé les trois quarts des réalités des autres. Alors, dans l'écriture, dans les 10 dernières minutes, y a, en fait, partout dans l'écriture, il y a des petits cailloux qui sont posés, mais on ne termine pas, on ne donne pas le gâteau, quoi. On ne donne pas le gâteau à l'arrivée. Et donc, il y a des petits cailloux partout pour que se crée quelque chose de l'ordre de l'espoir. Et ce n'est pas un mot... C'est pas le truc là. Pour que se crée quelque chose de ce que l'on nomme l'espoir, mais qui permet surtout en fait d'être debout. Et c'est donc tout est en place pour que voilà Nagi aille retrouver sa sœur Laïa. Il va pouvoir répondre au coup de fil. Il va pouvoir. Mais tout ça, on ne sait pas si c'est vrai. Ce n'est que le personnage occidental qui dit. Et moi, je rêve de ça et de ça. Et de ça, et pendant ce temps-là, le téléphone continue d'envoyer des textos, et on ne sait pas s'il va arriver en Italie, et on ne sait pas s'il va retrouver, mais elle dit, moi j'espère que, et j'imagine que lui, il est debout à cheval sur les frontières, que la grand-mère tient tête à la guerre avec son nuage de fumée, que Laïa continue de chanter sa petite musique électronique, et elle finit par dire, les exilés, quand tu les croises, je crois que tu le deviens, toi aussi, exilé de ta propre tranquillité. C'est-à-dire que le processus de création, ça a été celui-là. Et on ne pouvait pas être là-dedans. Ce que ça crée, c'est de l'intranquillité. Et tant mieux, en fait. Et du coup, il n'y a pas une vraie fin. Alors souvent, ils disent après le bord de plateau, il y a deux questions. Il y a, est-ce que c'est une histoire vraie, madame ? Donc, vous imaginez ce que ça veut dire par rapport aux images qu'ils ont de stocker dans la tête ? Parce qu'il y a du parallèle. Et la deuxième, c'est, mais quand même, ça se finit. Alors du coup, on les laisse finir. Et en fait... Tout est en place pour que ce soit le spectateur qui choisisse. Ça renvoie en fait le spectateur à sa propre capacité d'espérer pour l'autre, ce qui est déjà pour soi et pour l'autre. Voilà. Et c'est vrai que c'est une prise de risque à cet endroit-là, mais c'est peut-être ce qui permet que des choses se nomment collectivement au théâtre, dans cette expérience-là du théâtre collectif. Voilà.
Merci. Magali, est-ce que tu veux aussi prendre la parole et puis ensuite Dominique, enfin, si tu le souhaites, oui.
Là, c'est un peu particulier sur l'écriture de ce texte, Shell Shock, dans la mesure où c'est pas un jeune public traditionnel. Donc, je pense que après, j'avoue que c'est pas forcément une question que je me pose fondamentalement, en fait. Mais là, en tout cas, pour ce texte, il s'agit d'un tout public à partir de
quel âge ?
Donc à partir de la troisième.
De la troisième.
Ouais. Et t'es d'accord ? Quatrième. Et quatrième avec injonction de préparation. Non. Du coup. Je peux pas dire que comment dire. Je suis assez embarrassée sur la question de la fin, dans la mesure où ça présuppose toujours quelque chose qui est de l'ordre de la clôture, et je suis quelqu'un qui ne sait pas clôturer. Donc, par conséquent, il y a une fin, bien sûr, mais comme il y a quand même, je vais pas en faire une généralité, mais me concernant, il y a. Je ne vais pas dire qu'il y a 50% de choses qui m'échappent, mais comme le texte est effectivement achevé, mais qu'il n'est pas encore créé, et que jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait de lecture intégrale, si une fois. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais une fois, ça compte pas. Donc, bah, venez demain, hein, 10h30 à la Syrie. Nous ferons une lecture dans du texte dans son intégralité. Je ne sais pas très bien encore ce que ça met en jeu. J'avoue que là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui échappe. Ce que je peux juste dire, c'est que ça ne se clôture pas. C'est-à-dire que la figure parlante, le personnage principal de Rebecca, trouve-t-elle en tout cas une résolution à cette longue nuit crépusculaire, puisque on fait le trajet d'une nuit pour savoir que faire de ces images. Par contre, elle offre ce trauma à son collègue qui lui vient juste d'entrer d'Irak. Donc en fait, la question n'est pas résolue, quoi. Mais ça va de pair avec ce questionnement de se dire... nous ne savons pas quoi faire de ces images atroces. Est-ce que nous devons les nier ou non? Mais c'est aussi une problématique qui se pose pour les plus jeunes. En fait, en réalité, il n'y a pas de solution. Donc, je suis un peu malaisée pour dire il y a un message ou en tout cas il y a une chose comme ça prescriptive. Je ne sais pas quoi faire de ça. Les photographes ne savent pas. Et après, bien heureux les gens aisés de répondre à ça. Il faut faire ceci ou cela. Moi, je ne suis pas dans un théâtre prescriptif, donc je ne peux pas vous dire.
Moi, je voudrais juste ajouter, non pas ajouter, mais réagir un peu, mais ça pourrait conduire vers un autre débat. Je pense qu'il n'y a pas de jeune public traditionnel. Il y a une idée traditionnelle du jeune public.
Et peut-être juste ajouter, pour le coup, qu'il y a des échappées. C'est-à-dire oui, que... Voilà, il y a des échappées. Il y a des échappées poétiques. Et voilà, peut-être à l'endroit de ma... En tout cas, il y a réellement, dans Shell Shock, il y a une échappée poétique, puisque c'est un pamphlet-poème, c'est comme ça qu'il s'appelait au début. Donc, c'est d'abord une échappée poétique. Et il y a un mouvement de pulsation de la vie. Alors, en fait, c'est très étrange, alors que ça parle quand même de choses terribles. Il y a un mouvement de pulsation de la vie qui est énorme. Et il y a ces échappées. Donc, effectivement, on va les trouver au plateau. Elles existent complètement. C'est des échappées poétiques. Mais c'est des échappées poétiques avec de la force, quoi. Voilà.
Merci. Maintenant, je veux bien, effectivement, que Dominique nous donne son point de vue sur cette question. Peut-être toujours avec un...
des âges,
âges, et puis aussi de la question de comment on fait, comment on dit cet enfer, donc sans démoraliser, et donc éventuellement cette question du récit ou de la fin dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Oui, nous avons une responsabilité éthique de ne pas désespérer, j'en ai parlé tout à l'heure. Malgré tout, comme il a été dit, les enfants ont accès à des images traumatiques au travers de toutes les images qu'ils voient, qu'ils manipulent. Ceci dit, je me suis aperçue que la découverte de la Shoah, je crois que c'est en quatrième ou troisième, je ne sais plus, peut-être que certains ont l'information plus précisément que moi, est un choc terrible qui d'ailleurs peut provoquer un désespoir, une désespérance continue. Comme quelqu'un aussi l'a dit tout à l'heure, découvrir ce que l'homme fait à l'homme ou ce que la femme fait à la femme. En tout cas, avec une autre notion, peut-être que vous jugerez trop religieuse, c'est la découverte du mal. Donc cette découverte-là, elle peut être antérieure à la représentation, mais il me semble qu'il faut se garder de représenter d'autres traumatismes qui vont s'ajouter à des images traumatiques précédentes. Donc, comment négocier, comment réguler? Alors, c'est un mot horrible pour la création, hein, mais malgré tout, il faut se poser la question, c'est ce que tu disais, comment réguler ces images qui peuvent être traumatiques, parce qu'on ne sait jamais lesquelles seront traumatiques, hein, puisque c'est Castoriadis qui parle de l'imaginaire du spectateur. L'imaginaire social, nous pouvons à la limite le partager, mais l'imaginaire radical qui nous appartient à nous, nous ne savons pas dans chaque spectateur ce qu'il est. Hein, certains sont sensibles à la vue, d'autres à l'ouïe, d'autres aux odeurs, et c'est vrai qu'il y a eu des représentations, notamment celle de Turandot qu'avait monté Lucien Pentillet au Théâtre de la Ville, où les enfants partaient en hurlant tellement ils avaient peur des nains de la princesse Turandot.
Donc on ne sait pas ce que l'on fabrique et il faut être vraiment négocié, et c'est aussi un mot moche, mais je dirais plutôt régulé, parce que quand même dans la régulation, je trouve qu'il y a quelque chose d'esthétique avec ces images, avec la représentation et avec l'écriture. Et puis je dirais qu'il faudrait laisser ce que tu appelles poésie, poétique, Annabelle, la possibilité du merveilleux. Alors je précise tout de suite que je ne parle pas du merveilleux Hello Kitty, Disney, non, vous en doutez, mais c'est bien de le dire, parce que moi, on me dit, comment le merveilleux, mais comment tu ressors ça, ce concept? J'ai dit, non, moi, je suis en train d'écrire un essai sur le merveilleux, justement, dans le théâtre jeunesse, et je me suis posé cette question du merveilleux, de la brèche que le merveilleux creuse dans le réel, justement. Et je vais faire un retour en arrière vers une pièce que je travaille avec mes étudiants et qui, pour moi, est fondatrice. C'est la pièce de Liliane Atlan, Monsieur Fugue et le mal de terre, republiée, enfin, créée en 67 et republiée à l'école des loisirs, qui est le voyage vers Bourpouri, c'est-à-dire vers Auschwitz, des enfants du ghetto. Et Monsieur Fugue, qui est un soldat un peu idéaliste, un peu naïf, choisit de monter dans le camion avec les enfants et de les conduire à la mort en leur racontant des histoires. Et ces histoires sont entrecoupées des glapissements des enfants, c'est-à-dire que les enfants sont au-delà du trauma, au-delà de l'horreur, ils ne répondent aux histoires merveilleuses de Monsieur Fugue que par des glapissements. Et ces glapissements, ces ricanements, moi je les entends quand je vais dans les écoles en ce moment, c'est-à-dire surtout les enfants qui sont sur joystick, tablette, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, DS, Wii, etc. Ils ricanent, ils tuent. Et ils disent, laisse-moi, je tue. Je suis en train de tuer. Ce texte, si vous ne l'avez pas en mémoire, ouvre des brèches du merveilleux, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas connu la mer, donc il va parler de la mer et des mouettes et des rochers. Ils n'ont pas connu l'amour, il va parler du mariage, hein, il va parler des traditions rituelles juives du mariage, il va parler de la danse, et il va les emmener jusqu'au moment de Bourpouri. Et la pièce se termine parce que dit un enfant, n'empêche, j'aurais préféré ne pas naître pour ne pas voir ça. Mais malgré tout, la pièce ouvre des brèches. Alors le merveilleux, moi je vais l'entendre au sens de Pierre Mabille, qui est un poète surréaliste, qui était médecin et poète, qui a écrit un très beau texte qui est publié chez Fata Morgana, qui s'intitule Le merveilleux, où il écrit, le merveilleux, c'est quand le monde nous donne son accord. Et je pense que ces brèches poétiques, dans des scènes dures, radicales, des brèches qui font saigner, quand le monde poétique peut nous redonner à certains moments d'une dramaturgie, d'un texte jeunesse ou pas d'ailleurs, cet accord, c'est là que nous pouvons continuer à vivre.
Très beau, merci. Oui. C'est presque une conclusion. Peut-être que j'aimerais encore vous poser une question et puis garder un petit moment pour échanger avec vous si vous souhaitez. Si vous souhaitez faire ou des commentaires ou adresser des questions aux invités, bien sûr. On pourrait parler encore des heures, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit rendre la salle à 18h. Si, justement, je vous pose une dernière question et ensuite, on vous repasse la parole. Sur la question de la représentation, enfin, de ce que vous imaginez sur scène pour, en termes de mise en scène, de décor, de scénographie, il me semble que c'est difficile de figurer ces chemins d'exil, la guerre, ces sujets massifs, ces catastrophes, et que souvent les représentations passent plutôt par un récit ou par une mise en scène très épurée, un décor très épuré. Est-ce que c'est le cas dans Wynak que je n'ai pas vu? En tout cas, c'est le cas dans Le jeune Iyaku. Il s'agit d'un récit sans, voilà, c'est pas de décor. Enfin, tu vas nous en parler. ni horreur ni merveilleux sur scène, juste la place pour l'imaginaire. Qu'en est-il pour Wynak? Qu'en sera-t-il pour ta création, enfin votre création de Shell Shock? Voilà, dernière question que je vous adresse.
Dans Le jeune Iyaku, je détaille un peu. Vous comprenez, je détaille, je parle souvent, je parle des morts. Et la torture dans les prisons de la Libye, l'esclavage et autres, j'explique un peu. Ouais. Voilà.
Tu ne montres pas, tu expliques, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de
témoignage. Bon, oui, non, il n'y a pas d'image, mais le spectateur, il crée l'image lui-même, quoi, en fait. Il essaie de se créer des images. Et quand on parle de torture, on tabasse tel monsieur, il est mort. Voilà, lui, il essaie de visionner ça à sa manière. Donc, dans le jeu Nyaku, on explique, on n'essaie pas d'épargner, ça dit, le drame aux enfants, non. On essaie, j'essaie de bien expliquer, au fait, ce qui induit un immigré. Et voilà, s'il y a des lieux où ça parle trop de souffrance, je suis obligé d'expliquer. Mais il y a des tortues que vraiment, dont je garde encore les séquelles. Et puisque c'est mon histoire, aller sur ces détails-là, je crois que à chaque 5 minutes, on va s'arrêter un peu pour que le Géliakou même, proprement dit, se reprenne et continue encore l'histoire. On peut, moi, au jour d'aujourd'hui, j'expliquais tantôt à Judith, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis prêt à expliquer en long et en large ce que j'ai vécu en Libye, dans le désert et autres. Mais en 50 minutes, on ne peut pas l'expliquer. En 50 minutes, on ne peut pas. Donc, au moins une heure et quelques, deux heures, là, je suis partant pour bien expliquer tout en long et en large. Voilà.
Merci. Merci. Oui, Annabelle, la question de la mise en scène.
La représentation.
La représentation.
Ben justement, on tape sur la question de la représentation. C'est-à-dire, voilà. D'abord, c'est lié, on va dire, aux esthétiques aussi de mes travaux précédents. Même si les sujets, c'est des écritures, comme on a dit, du réel, il y a quand même une esthétique. En tout cas, il y a surtout une esthétique, ce n'est pas le problème. Il y a un rapport au plateau. Il y a un dialogue avec ce qu'est le plateau. Wainak, en fait, j'avais lu un bouquin de Marguerite Duras qui parle des lieux de la mémoire. Et du coup, au plateau, en fait, c'est le lieu de la mémoire de Lily, ce personnage qui revient, en fait, dans ce no man's land, sauf que sa mémoire, elle a un brin cramé au passage. Donc, c'est, je ne sais pas s'il y avait le roman La Route de Cormac McCarthy, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est un pays un peu post-apocalyptique, tout ça. C'est un roman à lire, faut lire en plein été, en plein soleil. Vous compensez grave comme ça, il ne faut pas lire ça la nuit. Et du coup, en fait, c'est lisez-le, c'est absolument prodigieux. Et il y a un moment, le père et son fils sont avec leur caddie. Ils ont 800 ou plus de 800 kilomètres à faire à pied. Ils doivent se cacher toujours. Et le père a promis en fait à son enfant que quand ils arriveraient à la mer serait bleue. Or, tout dans ce roman a été, il y a une catastrophe nucléaire et tout est gris, c'est un paysage de cendres. Et quand ils arrivent sur la plage, la mer est grise. Voilà. Et m'est venu ça, en fait, voilà, c'est Wena qui vient de cette idée d'un lieu de la mémoire qui serait pas très dépoussiéré, et puis de cette idée-là de ce paysage de bord de mer qui relie deux mondes, mais qui est pas un paysage réaliste en fait. Ça vient vraiment de ce premier rêve que je vous ai raconté tout à l'heure, que j'avais. C'est un rêve, mais c'est une image. Moi, je rêve en image en fait. Donc c'est vraiment une image nocturne en fait que j'avais dans la tête. Et puis sur Shell Shock, en fait, très vite, et le texte que Magali a écrit et qui est très très beau, je tiens à le dire, c'est un texte en fait de d'abord c'est un texte qui est complètement barjo, et c'est un texte à jouer, et c'est un texte de diffraction, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est la superposition des images. Et comme le texte contient une force poétique énorme, on n'a absolument pas besoin de projeter. D'abord, aucune image ne représenterait l'ensemble des autres. Mais il y a un élément qui permet de peut-être, voilà. Par contre, il faudra venir voir le spectacle pour voir ça. Parce que ça, je ne vais pas le spoiler. Et donc, on va travailler, en fait, moi, j'ai un rapport extrêmement abstrait au plateau, puisque je crois très fort à la force des mots. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils existent, qu'ils soient matérialisés. Par contre, on va travailler avec des boîtes photographiques, un système de scénographes avec, vous savez, les boîtes, enfin, ce qu'on appelle les chambres de lumière, avec lesquelles les photographes créent ces flashs qu'on se prend en pleine tête, puis boum, on a la persistance rétinienne, la fameuse derrière. Et puis, ben voilà, le stockage de l'image, en tout cas, peut, voilà. Donc, on va travailler dans cette abstraction-là au plateau, mais en fait, on a souvent un peu, on se dit, oh là là, pas figuratif, tout ça, mais l'imaginaire du spectateur, il galope et on n'a pas besoin de lui. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre la langue qui est écrite et puis l'espace vide, la 3D, qui elle aussi convoque. En fait, entre ce que la langue, elle convoque d'imaginaire et ce que le plateau poursuit et ramène d'imaginaire ou de réel et comment la bascule de l'un et de l'autre. Parce que, au final, ce qui est important, c'est que ce soit le spectateur qui déroule son fil, quoi. De comment on ne coupe pas le fil quand on passe de la langue au plateau. Ça, c'est vraiment la question qui traverse le travail. Voilà.
Est-ce que, Dominique, tu voudrais aussi dire un mot sur ce sujet? Est-ce que, alors, vous auriez des questions ou remarques, enfin, envie de parler, quoi? Et on passera un micro, bien sûr, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Oui.
Est-ce qu'il y a un micro? Oui, il y en a un qui circule dans la salle. Oui.
Bonjour, je voulais m'adresser à Yacouba. C'était juste une petite question, parce que je trouve que dans le processus, c'est important de parler de ta traversée jusqu'à la Libye, puis ton arrivée en Tunisie. Du moment où tu deviens musicien et que tu peux avoir des papiers, etc., pour peut-être poursuivre ta route et que tu fais le choix de revenir en Libye et dans le camp dans lequel tu étais. Et à partir de ce moment-là, comment tout s'effondre. Et parler justement parce que quelqu'un d'autre aurait peut-être continué sa route. Et je trouve que ce moment-là est extrêmement important dans la façon dont après tu es arrivé en France et pourquoi tu as fait ce choix-là et ce que tu as vécu justement en Libye après ce moment-là.
La question, c'est une bonne question. Parce que déjà, pour ceux qui m'ont connu un peu, les réfugiés qui n'ont pas eu de pays d'accueil, ils étaient en Tunisie, qui m'ont connu quand j'avais quitté le camp de Choucha. J'ai mené quand même une vie posée en Tunisie. Je vivais seulement de mon art. La musique est venue à moi quand j'étais dans le camp de Choucha. Tout a commencé là-bas parce qu'en fuyant la Côte d'Ivoire, je n'étais pas auteur-compositeur. Tout a commencé dans le camp de Choucha. Et là, je commence à écrire des chansons. Je sors du camp. J'ai sorti un album en 2014 intitulé Renaissance. Et voilà, quand je me suis vu refuser la carte professionnelle d'artiste, et là, je me suis dit, bah, j'en veux pas aux Tunisiens, mais c'est le système, vous comprenez, c'est le système. Et d'autre part aussi, dans la constitution tunisienne, il n'y avait pas de loi qui concernait quand même les réfugiés. Ça, il faut le dire dans ce temps-là. Et là, l'espoir fait vivre, vous comprenez? Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'avais des amis somaliens, soudanais, érythréens, palestiniens. Je vois, ils risquent leur vie. Nous sommes ensemble aujourd'hui, et deux jours, une semaine après, ils m'appellent de l'Allemagne, ils m'appellent de l'Italie, ils me disent, mais parce que quand on m'appelait Yakuza, ils disent, mais Yakuza, ça va, sur Facebook? J'ai dit, oui, ça va, mais tu es où, là? Ah, je suis en Europe. Toi, tu fais quoi en Tunisie encore? Ah, j'ai dit, non, mais comment tu as fait? Tu as eu un pays d'accueil? Il me dit, non, je suis revenu en Libye, et voilà, j'ai traversé, je suis parti. Bon, il y a l'ambition aussi. Un moment, en Tunisie, je ne voyais pas de débouchés, au fait. Je me suis dit, je vais rester là, en train de chanter. Bon, ça n'avançait pas, au fait. Je me suis, j'ai pas la 4 Pro, donc ça veut dire que je ne peux même pas sortir, je n'avais même pas de passeport. J'avais seulement mon statut de réfugié. Donc, je me dis, bon, je vais aller voir ailleurs. Mieux vaut souffrir une fois pour de bon. Si ça marche, si j'ai réussi à traverser la Méditerranée, je pense qu'il y a une vie, une nouvelle vie qui m'attend. Si ça ne marche pas, bah, au moins c'est, j'aurais essayé. Bon, comme je le dis, pendant Geniakou, c'était une idée vraiment stupide parce que quand je suis arrivé en France, et j'ai été choqué à la gare de Lyon, et je travaille là-bas maintenant, de voir, je soigne un peu le mot SDF, j'ai vu un clochard dehors, comme on le dit, ça m'a vraiment choqué. Je dis, oh, en France ici, excusez-moi du thème, j'ai dit, mais un blanc qui s'ouvre dans son pays? Là, c'est bizarre. Donc, il y avait mon bonhomme, mon moi supérieur, on communique beaucoup. Oui, il s'est développé quand j'étais dans le camp de Choucha. Et là, je me dis, tu vois, tu as pris tout ce risque, mais il y a la misère ici encore, Yacouba. Là, tu vois ça? Et ça, ça m'a travaillé toute la nuit. Et je m'en voulais à moi. J'ai dit, mais pourquoi tu as risqué ta vie? Et là... C'est pendant ma période d'incarcération en Libye où personne ne savait où j'étais. Et quand je suis rentré en Italie, j'ai vu les messages. De toute façon, les gens se sont mobilisés. C'est là que j'ai vu, j'ai dit, mais j'ai fait du tort à toutes ces personnes. Donc, on m'aimait jusqu'à ce point. Là, ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit, non, mais souvent, c'est vrai, c'était mon choix. Je ne le regrette pas. Aujourd'hui, hein, mais un moment en 2016-2017, je le regrettais. Il dit, mais ça ne valait pas la peine. Voilà, tu es arrivé en France, tu n'arrives même pas à bien faire ta musique. Et voilà. Et il y a la souffrance un peu partout, des gens qui dorment dans les métros, dans les gares. Il dit, waouh, Yacouba, il faut aller rester en Tunisie. Et moi, j'étais encore dans ma bulle, je rêvais toujours. Et à chaque fois, quand on partait, on sortait un peu avec. Sophie Bachelier, la dame qui m'a aidé aussi là, elle, je lui disais à chaque fois, il y a du Sophie, parce que je ne réalisais pas que j'étais vraiment en France. Pour moi, j'étais encore dans les entrailles de la Libye. Donc je lui disais à chaque fois, Sophie, je suis vraiment en France. Et elle me dit, oui, Yacouba, tu es vraiment en France. Et là, elle me pinçait un peu, je m'excuse. Elle me pinçait bien. Elle dit, non, tu es vraiment en France. Arrête, réveille-toi, Yacouba. Réveille-toi, Yacouba. Et un moment, il a fallu qu'à chaque fois, elle puisse me dire ça pour que je puisse réaliser que j'étais vraiment en France. Parce que tellement j'avais reçu des coups, vraiment, c'était vraiment un grand choc pour moi. Et là, je ne sais pas si je m'éloigne de la réponse. Je suis toujours dedans, dans le fil. C'est bon? OK, donc voilà. Et sincèrement dit, au jour d'aujourd'hui, si c'était à refaire, par rapport à la vie que je mène aujourd'hui, ouais, j'allais refaire, si c'était à refaire. Mais je suis très content de la vie que je mène aujourd'hui. Et voilà, donc je me dis, je donne une importance au risque que j'ai pris vraiment pour retourner en Libye, sachant que je savais très bien ce qui m'attendait en Libye. Mais l'esclavage et la torture, je n'avais pas pensé à ça. Mais je me suis dit, ben voilà, sans doute, le soi-disant ancien combattant, il va bouffer mon argent. Et je serai obligé encore d'appeler des personnes pour m'envoyer un peu d'argent pour pouvoir tenter ma chance. Mais moi, j'avais pensé à tout, sauf aux tortues dans les prisons et les séries de prisons que j'ai dû gérer. Et après, me retrouver dans un truc d'esclavage au 21e siècle, je n'avais pas pensé à ça. Parce qu'arrivé un moment, je n'avais plus de dignité, au fait. Et c'est l'espoir qui m'a permis de rester en vie. Je me suis accroché à ça. Et toujours avec mon bonhomme, il me disait, hey, Yacouba, il y a des moments, je voyais des amis qui mouraient devant moi dans les cellules. Et vraiment, ils passaient tout le temps à broyer du noir. Il n'y avait plus d'espoir. Mais moi, il y a des moments, ça n'allait pas. Mais quand même, je me forçais. Je faisais croire que tout allait. Et cet espoir m'a permis de rester en vie, d'être là où je suis, parce que, voilà, il fallait. C'est bon, j'ai répondu un peu. OK, merci.
Merci à toi.
Merci.
Est-ce que quelqu'un
Non, ça aurait pu être une question que pourrions nous poser à tous et que je pourrais te poser, Sylvie, aussi. C'est qu'est-ce qui nous amène à justement avoir une table ronde sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait que, en nous, qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons besoin de nous retrouver et d'entendre des paroles? Peut-être que je rebondirai sur ce que tu disais tout à l'heure, Annabelle. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des exilés de la tranquillité, de notre tranquillité aussi? Intranquilles, nous sommes peut-être aussi. Voilà. On pourrait poursuivre, et on va vous inviter à poursuivre peut-être de façon plus informelle, dire aussi que le jeune Yaku se joue encore, que Magali, tes textes, je ne sais pas si c'est tes textes qui sont montés, mais au moins j'en ai vu un, moi, c'est The Lulu Project, que donc c'est une façon aussi de faire connaissance maintenant, enfin, dans ces jours qui viennent, de se nourrir de, non seulement de nos réflexions autour d'une table, mais de ces paroles aussi qui naissent sur les plateaux de théâtre grâce à vous. Voilà, un très grand merci. Dire aussi que ce n'est pas fini. Avignon Enfant à l'honneur, ça se poursuit. Que vous avez des petits fascicules et que vous saurez donc qu'il y a beaucoup de cartes blanches. Voilà. Et si on poursuivait encore, on dirait que Enfant à l'honneur, c'est extrêmement important. Je pense à l'expression enfant à l'honneur, à savoir que c'est autour de l'enfance, de la jeunesse, des jeunes gens, que nous nous sommes rassemblés eux aussi, et que si tout à l'heure on parlait, et toi Magali, de à hauteur de l'événement, j'ai envie de moi de dire aussi à hauteur de l'enfance, de l'image que nous en avons et que nous créons ensemble aussi. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup, merci. Et merci à vous pour votre écoute et bon festival. Ouais.